8h44 à Paris tout de suite, c'est la revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, la menace terroriste dans le nord du Bénin.
Ce ne sont pas 8 soldats, comme annoncé initialement, mais 54 qui ont été tués jeudi dernier lors de la double attaque terroriste survenue au Point Triple et à Koudou, dans le nord du Bénin. 54 soldats béninois qui ont fait le sacrifice suprême, soupire le site d'information béninois Banuto, dans ce département de l'Alibori, une zone de savane et de forêt située à la convergence des frontières du Bénin avec le Burkina Faso et le Niger. C'est le gouvernement béninois, par la voix de son porte-parole, Wilfried Léandre Oumbeji, qui a annoncé ce bilan hier, pointe la Nouvelle Tribune à Cotonou. Le porte-parole qui a souligné le manque de coopération des pays voisins, notamment dans le cadre d'une stratégie régionale de lutte contre le terrorisme. Le Nord-Bénin fait face depuis plusieurs années, rappelle le journal, à une série d'attaques venues du Burkina Faso et du Niger, territoire où sévissent des groupes armés affiliés à l'organisation État islamique ou encore à Al-Qaïda. Pour contenir cette menace, le gouvernement béninois avait lancé, dès janvier 2022, l'opération Mirador, mobilisant près de 3000 soldats. Un recrutement de 5000 hommes supplémentaires avait suivi afin de renforcer la sécurité dans les zones exposées. Déjà, début janvier, rappelle encore la Nouvelle Tribune, 28 soldats béninois avaient été tué au niveau du Triple Point dans une embuscade revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, coalition liée à Al-Qaïda.
À en croire le porte-parole du gouvernement béninois, souligne le Djeli en Guinée, les attaques terroristes de la semaine dernière sont donc la conséquence de la défaillance dont se rendraient coupables les voisins que sont le Burkina Faso et le Niger.
Oui, une mise en cause que les autorités de ces pays pourraient ne pas apprécier, pointe le site guinéen, d'autant qu'avec le Bénin, les relations ne sont pas les meilleures depuis un certain temps. Il n'empêche qu'il est de notoriété publique que le Burkina Faso et le Niger sont plutôt à la peine dans leur lutte contre le péril sécuritaire, s'exclame encore le Djeli. Et pour le bien de tous, il faudrait qu'au-delà des querelles et des divergences, les différentes parties trouvent le moyen de travailler ensemble. Dans l'absolu, personne ne demande que les pays de l'Alliance des États du Sahel reviennent dans l'espace CDAO, mais si les contacts sont totalement rompus et que des espaces d'échange et de collaboration ne sont pas instaurés, les criminels et autres bandits qui écument la région ne pourront qu'en profiter.
À la une également, la tension politique qui s'accroît en Côte d'Ivoire.
Oui, hier, relève le site Presse Côte d'Ivoire, les groupes parlementaires du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et du Parti des peuples africains ont quitté l'hémicycle avant l'ouverture des travaux de la session plénière. Ce boycott marque leur ferme opposition à l'exclusion de leurs leaders respectifs, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, de la liste électorale en vue de la prochaine présidentielle. Les députés des deux principales formations d'opposition ont voulu envoyer un message fort aux autorités électorales et judiciaires. Leur boycott vise à dénoncer ce qu'ils considèrent comme une manœuvre destinée à écarter deux figures majeures de la scène politique ivoirienne.
Commentaire du site afrique.com. Pour ce qui concerne l'exclusion de Tidjane Thiam pour cause de nationalité douteuse, le parallèle avec 2010 est troublant.
À l'époque, rappelle Afrique.com, le camp de Gbagbo avait usé de tous les leviers pour remettre en question la légitimité de Ouattara, accusé de ne pas être pleinement ivoirien, en s'appuyant sur une interprétation plutôt douteuse du concept de nationalité. Aujourd'hui, relève le site, c'est ce même Ouattara, par le biais d'un appareil judiciaire qui lui est acquis, qui reproduit une mécanique semblable pour écarter un rival redoutable. Ironie de l'histoire ou bien stratégie cynique, à chacun d'en juger. En tout cas, conséquence de ces évictions, conclut Jeune Afrique, pour le parti au pouvoir, le RHDP qui devait tenir son congrès le 18 mai avant de le reporter au mois de juin, la voie semble désormais largement dégagée pour un quatrième mandat du président Ouattara, qui n'a toujours pas fait part de ses intentions. Si le scénario reste celui-ci, le RHDP avancera en roue libre. La vraie bataille se jouera peut-être en 2030.
Frédéric Couteau, dans une demi-heure, vous revenez pour la revue de presse internationale. À la une, cette question, quel plan de paix pour l'Ukraine ?
Oui, comment mettre un terme à cette guerre meurtrière qui dure depuis maintenant plus de 3 ans ? Le ballet diplomatique se poursuit, mais pour l'instant, nous le verrons de par les journaux, sans résultat.
Rendez-vous à 9h15 pour la revue des journaux du monde. Merci à vous, Frédéric Couteau.
RFI, toute l'actualité. Andréane Mélard.
Et on en parlait, l'Ukraine à la une ce jeudi, notamment avec cette attaque russe cette nuit sur Kiev, la capitale particulièrement meurtrière. Cette attaque, les services de secours font état de 9 morts et 63 blessés, dont des enfants. Des frappes répétées sont aussi rapportées à Kharkiv. Pour le ministre ukrainien des Affaires étrangères qui a réagi ce jeudi, c'est le signe que la Russie ne souhaite pas mettre un terme à son invasion de l'Ukraine. Cela survient en tout cas quelques heures après l'annonce par Donald Trump d'un possible accord avec la Russie sur l'Ukraine et les mots très durs du président américain contre son homologue ukrainien, l'accusant de tenir des propos incendiaires sur la Crimée annexée par Moscou en 2014. Volodymyr Zelensky est en visite à Pretoria en Afrique du Sud ce jeudi. Emmanuel Macron, lui, est à Mayotte, le président français. On en parle dans une poignée de secondes avec notre invité. La basilique Saint-Pierre de Rome a ouvert il y a un peu plus d'une heure maintenant et les fidèles sont déjà très nombreux à attendre dans l'espoir de saluer une dernière fois le pape François, pouvoir se recueillir face à la dépouille du souverain pontife décédé lundi matin. Le cercueil sera refermé demain vendredi à 20h avant ses obsèques samedi en présence de 170 délégations étrangères. Les autorités indiennes ont pris ce mercredi une série de mesures punitives contre le Pakistan qu'elles accusent de terrorisme transfrontalier après une attaque mardi contre des touristes dans le Cachemire indien, attaque qui a fait 26 morts. Parmi ces mesures prises par New Delhi, la suspension d'un traité sur le partage de l'eau ou encore le rappel de diplomates. Et puis concernant la guerre commerciale en cours entre Washington et Pékin, le président américain Donald Trump a esquissé hier la possibilité d'un accord commercial équitable avec la Chine. La suite donc ce jeudi de la visite d'Emmanuel Macron à Madagascar, une visite très tournée sur la question mémorielle mais aussi sur celle des îles éparses, ces 5 îlots de l'océan Indien à l'emplacement stratégique qui sont actuellement sous administration française mais qui sont toujours revendiqués par Madagascar. Hier, Paris et Antananarivo ont décidé de réactiver la commission mixte sur ce dossier et aujourd'hui, le président français doit participer au 5e sommet de la commission de l'océan Indien. Analyse ce matin de notre invité Richard Randriamandrat, ex-ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Il répond à Christophe Bobouvier.
Richard Randriamandrat, bonjour.
Bonjour.
La réunion de la commission est marquée aujourd'hui par la présence du chef d'État d'une grande puissance, c'est le français Emmanuel Macron. Est-ce que cette présence peut raviver des querelles territoriales ?
Non, je ne pense pas. Je pense que les chefs d'État ne vont pas soulever des sujets sensibles. Au contraire, il faut chercher à unir les points de vue face notamment aux enjeux géostratégiques. Je pense que les chefs d'État ont tout intérêt à éviter des sujets qui fâchent pour faire face aux défis du développement durable, puisque c'est autour des 17 objectifs de développement durable que la Commission de l'Océan Indien, en 1982, a vu le jour. Pas l'oublier. Donc maintenant, je pense que le plan de développement stratégique 2023-2033 va certainement permettre aussi à nos pays d'aller de l'avant.
L'un des sujets qui fâche à la Commission, c'est le sort de Mayotte. La France voudrait que cette île soit éligible au programme de la Commission de l'Océan Indien, mais les Comores s'y opposent puisqu'ils revendiquent ce territoire. Est-ce qu'il y a une solution ?
C'est un sujet qui, à mon sens, relève de la diplomatie bilatérale entre les Comores et la France.
L'un des arguments d'Emmanuel Macron pour Mayotte, c'est de dire que la France contribue déjà à hauteur de 40% au financement de la Commission de l'Océan Indien.
Oui, la France est le premier pourvoyeur de financement avec l'Union européenne à travers l'Agence française de développement. Mais pour autant, ce n'est pas parce que Mayotte doit faire partie ou être toujours à l'écart de la Commission de l'Océan Indien. Je pense une fois de plus que ce sujet relève de la diplomatie bilatérale et je me garderai à ce stade d'apporter un commentaire, quel qu'il soit, sur ce point.
Et est-ce que Madagascar pourrait pencher plutôt du côté des Comores ou plutôt de la France dans cette querelle ?
Non, une fois de plus, c'est un sujet, je crois, qui ne relève pas de ce 5e sommet de l'océan Indien.
Autre sujet qui fâche, le sort des îles éparses. Il s'agit de ces 5 îlots sous administration française que Madagascar revendique depuis 1973. Comment voyez-vous l'issue de ce bras de fer ?
Il me semble que l'organisation d'une deuxième réunion de la commission mixte franco-malgache va se tenir dans les prochains jours. Je crois même que la date du 30 juin a été annoncée. Donc cela augure en fait une période encourageante en termes de discussion et c'est l'occasion de se retrouver autour des aspects sensibles sur le plan juridique, sur le plan historique qui peut permettre d'asseoir un accord permettant de ne pas fragiliser la situation, par exemple, sur le plan de l'équilibre environnemental dans cette zone sensible, sur le plan de l'écosystème, de la protection de la faune et de la flore, de la sécurité maritime. Donc, ce n'est pas un sujet qui va diviser la France et Madagascar. Au contraire, il faut saisir cette opportunité pour revoir un peu les copies sur les positions des uns et des autres.
À Paris, certains évoquent la possibilité d'une cogestion entre la France France et Madagascar. Est-ce que vous êtes pour un partage de souveraineté ou un transfert de souveraineté?
Je n'ai pas à m'affirmer sur la nature de l'accord qui va se mettre en place. Il revient au chef d'État de se mettre d'accord sur l'aspect qui va permettre d'avoir une situation gagnant-gagnant, si je peux m'exprimer ainsi. Mais du moment qu'il y a un accord qui est mutuellement accepté, sans qu'il y ait, disons, d'amertume ou de sentiment de perte de souveraineté, à partir de là, je pense que tout ira pour le mieux. Je pense que l'essentiel, c'est que la France et Madagascar puissent être rassurés sur l'aspect sécuritaire, environnemental. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de perte de souveraineté de part et d'autre. C'est le point le plus important.
Emmanuel Macron a eu ce mot. Je viens à cette commission de l'océan Indien pour y défendre la place de la France dans l'océan Indien. Alors, vu de Madagascar, quel est le meilleur partenaire? La France, la Russie ou la Chine?
Sur ce point, Madagascar a choisi de ne pas choisir entre privilégier tel ou tel partenariat. Madagascar, depuis des années, depuis le président Ratsirek, a choisi une position d'ouverture.
Et quand Emmanuel Macron rappelle qu'il y a dans la zone indo-pacifique quelques 8000 militaires français, ça vous convient ou ça vous gêne?
Non, cela ne porte pas, à mon avis, de menace particulière. D'ailleurs, le grand chambardement maintenant sur le plan géostratégique fait en sorte qu'il faut bien faire attention sur les éventuels risques de déstabilisation. Donc non, moi je ne m'en offusque pas pour autant.
Richard Randriamanrat, merci.
L'ancien ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Randriamanrat, il répondait à Christophe Boisbouvier. Maman, ce matin, vous nous dites que quoi que l'on fasse, l'alpha et l'oméga de la vie politique au Gondwana, c'est bien évidemment l'élection présidentielle.
Oui, qu'on monte ou qu'on descende, qu'on soit un très démocratique république ou un république de Mbengue capitale Paris, l'élection présidentielle est l'horizon auquel rêve tout homme politique. Il n'y a rien d'autre en dehors de l'élection présidentielle. Tout tourne, tout respire, tout vit pour la mère de toutes les batailles, l'élection présidentielle. Tous les hommes politiques en rêvent, en se rasant, en prenant leur café. Ils y pensent en te serrant la main, en félicitant le paysan pour sa récolte, en encourageant les élèves et les étudiants à persévérer dans leurs études parce que, paraît-il, ils seraient l'avenir du pays. Bref, la présidentielle, c'est le cœur atomique de la vie politique en très démocratique république. Quand elle arrive à un horizon très proche, que dis-je, quand elle est après-demain ou demain, l'homme politique est comme le joueur de foot pendant la séance des tirs au but. Il avance tout seul, du rond central au point de pénalty, sous le regard de ses partenaires et des adversaires, accompagné par les prières de ses supporters et des sorciers du village. Pendant qu'il avance vers son but ultime, toute sa vie défile dans sa tête, depuis les premiers jour où il n'était qu'un petit quelqu'un invisible parmi les invisibles au fin fond d'un bureau miteux, d'un bâtiment défraîchi, d'un quelconque service jusqu'à la conquête du parti politique au prix de quelques victimes collatérales qui ont eu la malchance de se trouver sur son chemin. Il mesure la route parcourue et les quelques mètres qui le séparent du ballon et de ce tir au but tant rêvé, celui qui pourrait le propulser dans l'histoire. C'est ça l'élection présidentielle. Si tu réussis, ben tu montes au firmament, la tête dans les étoiles. Tu deviens toi-même une étoile, l'étoile présidentielle. Si tu échoues, eh ben, on oubliera ton nom, mon ami. Bah oui, toi, tu n'oublieras jamais. Mais nous autres, on va tout faire pour ne plus penser à toi, hein, parce que ça nous énerve de voir les autres faire les malins parce que leur gars a réussi son tir au but, lui. C'est ça, l'élection présidentielle. Elle parle à tout le monde. Par exemple, si tu es passé par le lycée, tu sais que la présidentielle au lycée, ben, c'est le baccalauréat, le bac pour les intimes, la mère de tous les examens. Dès que tu mets les pieds dans la cour du lycée, tu les vois là-bas, les gars des classes de terminale. C'est là-bas que tu veux finir, toi le petit de seconde. Tu veux y être, mais tu trembles intérieurement parce que tu sais qu'au bout de la terminale, ben il y a le bac. Tous les jours, toutes les minutes, tu ne rêves que de ça, le bac. Tu passes en première, le bac. T'arrives en terminale, tout le monde ne parle que du bac. D'ailleurs, sur le mur du fond de la classe, une main anonyme a écrit « le bac ou l'exil ». La seule différence entre le bac et l'élection présidentielle, c'est que le jour de la publication des résultats, il n'y a qu'un seul nom sur la liste finale et très souvent, c'est un redoublant. À lundi.
Merci Maman et à lundi, RFI, vous restez avec nous dans un peu plus d'une minute, le retour de l'actualité internationale.
Ce jeudi sur RFI, Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
Reportage au Royaume-Uni, où la compagnie Project Europa défend la diversité au théâtre et se bat pour ouvrir les castings à des artistes de tous les horizons. Comédiens et comédiennes du Cameroun, du Zimbabwe, du Maroc montent sur les planches, même au Globe, l'emblématique théâtre de Shakespeare à Londres.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU, sur RFI.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
100 jours après le retour au pouvoir de Donald Trump, où va l'économie des États-Unis ? Entre risque d'inflation et menace de récession, les Américains et leurs entreprises sont-ils dans le doute ? Émission 100% USA avec nos envoyés spéciaux, témoignages et analyses.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Elle est née sur un voilier en plein océan, mais sa mère s'est enfuie avec elle encore bébé. Elle n'a jamais revu son père, qui a fait naufrage quelque temps après avec sa sœur. Cette histoire est celle de Virginia Tangvald, fille du célèbre navigateur. Une histoire folle qu'elle raconte dans son livre « Les enfants du large ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.